J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Capi pour vous informer, mesdames et messieurs. Un nouveau numéro de parole aux auditeurs, un nouveau débat avec vous, mesdames et messieurs. À l'issue des travaux de la table ronde sur l'état des sièges tenus à Kinshasa du 14 au 16 août dernier, les participants ont opté pour la levée pure et simple de l'état des sièges. Ils ont demandé à l'état congolais de rétablir les institutions des deux provinces dans le respect des dispositions et légales constitutionnelles et de renforcer les opérations militaires de grande envergure en respectant l'unité de commandement. Pour rappel, l'état de siège de ces deux provinces a été instauré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en mai 2021. Alors, comment commentez-vous cette demande d'élever de l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et de l'Ituri? Composez le 081-890-4969 ou le 081-890-6330 pour participer en direct. Marcel Ngombo, Mbala, Keba et Mimi Kindou concourent à la production de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo, Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Avec réel plaisir, nous accueillons en ligne l'honorable Bintou Ntumba. Il est avec nous. Bonjour, honorable. Honorable Bintou Ntumba, bonjour. Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de l'honorable Bintou. Le temps peut-être de prendre un auditeur, le premier, je crois, qui pourrait peut-être intervenir avant de retrouver notre invité, honorable Bintou. On commence cette émission avec vous, Marie-Paul Awa. Vous êtes à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole. Quel est votre avis depuis Kisangani où vous intervenez?
Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais ici préciser d'abord qu'au terme de l'article 85 de la Constitution de la RDC, la proclamation de l'état de siège est l'une des prérogatives constitutionnelles dévolues au président de la République en concertation avec le Premier ministre et le président des deux chambres du Parlement. Et cette mesure, comme vous le savez bien, a comme but de lutter contre des circonstances graves, bien évidemment, qui financent l'indépendance et l'intégrité du territoire national. Et c'est dans ces termes-là que le président de la République avait, bien évidemment, proclamé l'état de siège ou l'état d'urgence dans ces deux provinces que nous le savons, de la RDC. Alors, si nous nous mettons à faire un bilan par rapport à cet état de siège, nous allons nous rendre compte que le bilan est négatif parce que les objectifs qui ont poussé le président de la République à pas été enterrés. Et sur le vue des droits, on a bien évidemment toute chance de pouvoir remettre bien évidemment l'administration civile comme c'était avant. Mais à mon avis, je trouve que ça risque d'être un peu quelque chose qui va encore plonger les
oui, Marie-Paul, oui. Si vous le permettez, oui. Parce qu'on devait quand même accorder en premier la parole à notre invité pour qu'il puisse planter les décors, afin de nous aider avec cette question. Alors, honorable Bintou Ntumba, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je suis en ligne, messagère.
Alors, nous rappelons que vous êtes l'élu de Katanda. Là, nous sommes au Kasaï oriental. Et c'est bien ça?
Oui, je suis élu dans la circonscription électorale de Katanda dans la province du Kasaï oriental.
Alors, d'entrée des jeux, la levée pure et simple de l'état de siège a toujours été réclamée par la population de l'Est et surtout par la majorité de la société civile. Mais cet état de siège a toujours été prolongé par vous, les députés nationaux. Alors, plusieurs prolongations, pas toujours des résultats. Peut-on dire aujourd'hui que 2 ans après, c'est l'échec patent?
Non, dire qu'il n'y a pas eu de résultats, c'est quand même très fort. Puisque, d'abord, permettez-moi que nous puissions d'abord saluer tous nos compatriotes qui sont en train de nous suivre à travers la République, les millions d'auditeurs de la radio Capi et tous ceux-là qui vont intervenir dans cette émission. Donc, dire qu'il n'y a pas eu de résultats, c'est quand même très très fort. Mais l'état de siège, l'une des dispositions constitutionnelles prévues par notre constitution, que lorsqu'une partie du pays, il y a un problème de, qui n'arrive pas à se terminer, comme le problème de l'insécurité qui est chronique dans notre pays, hérité depuis plus de 20-30 ans aujourd'hui. Alors, il a fallu à essayer de nouvelles recettes afin que nous puissions, que la République puisse faire face à l'ensemble des menaces et pour y mettre fin définitivement. Et l'une des recettes, c'était l'état de siège qui a été expérimenté. Deux ans après, il y en a qui réclament la levée, il y en a qui réclament le maintien. Et il y a aussi une autre, il y avait aussi une autre commission qui réclamait qui réclame la requalification. Donc, pour ceux-là qui réclament la levée, ils ont des raisons qu'ils ont avancées, et ceux qui réclament les maintiens ont donné aussi des raisons, ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait normal, nous sommes dans la démocratie, chacun donne son opinion, mais la finalité reviendra au chef de l'État, le numéro 1 de la République, qui va voir, qui prendra une des décisions
okay.
qui doit aller dans l'intérêt de la République, et non pas pour satisfaire un cas ou un autre. Mais c'est l'intérêt oui. suprême de la République va primer.
Oui, vous parlez de respect de ceux qui ont opté soit pour le maintien, la levée ou la requalification. Mais nous savons que la table ronde a été annoncée par le chef de l'État au cours d'un des conseils des ministres. Et ça fait plusieurs mois maintenant. Mais pourquoi avoir organisé ça plusieurs mois passés après?
Vous savez que le chef de l'État étant un démocrate, la République démocratique du Congo voudrait que chaque enfant de la République s'exprime sur un sujet qui le concerne principalement. Voilà pourquoi, en dehors de ce qui est institutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, les assemblées provinciales, ainsi de suite, on a associé aussi la société civile et tous les acteurs concernés par cette question pour que chacun donne son point de vue et on finisse. Qu'on arrive à trouver une solution idoine, puisque l'intérêt suprême de la République, c'est de ramener la paix partout à travers la République, là où la population est en train de souffrir. Monsieur Gilles, je viens de l'est du pays, principalement après, je suis rentré à Kinshasa hier, donc j'ai vécu la situation, je connais la situation. J'ai vécu, je connais la situation de l'Ituri, je connais la situation du Nord Kivu, là où il y a l'état de siège, je viens de là. J'étais à Beni, j'étais à Lubero, j'étais à Goma. Alors, j'ai vécu la situation. Comparativement à la situation que nous avions vécue en 2014, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, je peux vous dire avec satisfaction que il y a eu amélioration de la situation sécuritaire comparativement aux périodes antérieures. Aujourd'hui, à Beni, j'étais à Beni, je suis allé jusqu'à Ouicha, nous sommes passés par le triangle de la mort, nous sommes passés par plusieurs endroits où les gens ne passaient plus, la population est en train de regagner des endroits où les gens ne vivaient plus. Donc, dire qu'il n'y a pas eu de résultats, c'est quand même très fort.
Alors, vous êtes de l'UDPS. Vous êtes de l'UDPS, cadre de l'UDPS. Pensez-vous, êtes-vous pour le maintien, la levée ou la requalification?
Non, la question ne concerne pas un parti politique. C'est une question nationale.
Non, en tant qu'acteur politique.
En tant qu'acteur politique élu. Je ne suis pas le porte-parole de l'UDPS. Il y a un porte-parole, nous avons un secrétaire général de l'IDPS que vous connaissez mieux, notre secrétaire général Christian Kabuya, qui peut engager la décision du parti. Ici, je parle en tant qu'élu national, ayant travaillé aussi dans plusieurs questions sécuritaires.
Alors, en tant qu'élu, êtes-vous pour le maintien, la levée ou la requalification?
La dernière décision reviendra au chef de l'État, mais ce que je peux donner comme mon point de vue est d'appeler le chef de l'État à prendre la décision qui va permettre à notre pays de ramener la paix totalement à l'est du pays, de sécuriser le pays, puisque notre pays est beaucoup convié par l'extérieur, et principalement les pays voisins qui veulent s'accaparer d'une partie de notre pays. Donc, le chef de l'État prendra la décision qui doit nécessairement protéger la République pour l'intérêt de
alors,
la République.
Alors, juste une question de curiosité, avant de repasser de l'autre côté des standards, pour accueillir les auditeurs. Vous êtes parti dans l'est de la République démocratique du Congo. Êtes-vous arrivé à Rutshuru?
Je ne suis pas arrivé à Rutshuru. Je sais que dans les jours à venir, et Bunagana, et Rutshuru, et Masisi, les partis qui sont troublés verront que la paix va revenir. Et je suis certain que notre armée est en train de monter en puissance, qu'il n'y aura aucune autre armée qui va se permettre de jouer encore avec le Congo comme ils l'ont fait pendant les 20 dernières années.
Merci beaucoup. Honorable Bitou, nous vous gardons en ligne le temps d'accueillir les autres auditeurs qui nous ont rejoints. On était déjà avec Marie-Paul. Marie-Paul, vous venez de suivre Honorable Bitou Tumpa, élu des Katanda, cadre de l'IDPS. Alors, pensez-vous qu'il va falloir maintenir le tas des sièges, la levée qui est réclamée, êtes-vous également d'accord, ou plutôt il faut opter pour la requalification?
Oui, j'étais en train de dire que devant un tableau sombre de la situation de l'activisme rebelle dans ces deux provinces, je trouve qu'il est imprudent de retourner de la manière très vite à l'administration, bien évidemment, civile. Alors voilà pourquoi, de ce fait, moi j'avais dit, je propose que la levée de l'état de siège doit être progressive et non à la va-vite comme les réclament bien évidemment certains compatriotes. Pourquoi? Parce que si nous faisons des choses de cette façon-là, étant donné que la sécurité n'est pas encore au rendez-vous et que le même activisme est toujours en activité de là, parce que nous, je suis un déshonorable, nous sommes... disons-nous vrai et mal, mais il est vrai que l'insécurité règne toujours là, dans ces coins du pays. Est-ce que ce n'est pas un secret pour tous les Congolais? Alors, moi je dis, la RDC a tout intérêt, bien évidemment, monsieur le journaliste, d'établir l'autorité de l'État dans ces deux provinces, et avant de passer, bien évidemment, à l'administration civile. Et de ce point de vue-là, si l'autorité de l'État est établie, et qu'il y a un partenariat stratégique pour combattre l'activisme rebelle, c'est alors qu'on peut vraiment lever les temps de siège. Bon, je comprends également ce que, comme vous le savez, l'état de siège demande assez d'argent, parce que les militaires qui sont affectés là-bas, qui sont commis là-bas, reçoivent assez de l'argent par rapport dans un régime normal. Et de ce point de vue-là, je trouve que nous devons aller faire des choses de manière à permettre que la paix revienne. Et sinon, si nous faisons des choses de manière très vite, comme ça, parce qu'il y a réclamation alors que la situation n'est pas là, je trouve qu'on va faire. Le problème, c'est de réqualifier. Je crois que nous avons tout un tableau de failles. Et le pays doit prendre toutes ces failles, la voie dans quelle mesure créer des forces dissuasives, créer une armée, bien évidemment républicaine, pour dissuader ces gens. Maintenant, si, dans ce contexte ici, et que nous rendons le pouvoir aux civils, et nous allons maintenant donner la force aux rebelles, parce qu'ils vont se dire, non mais les militaires sont venus ici, ils ont foutu, maintenant avec les civils, ils vont faire n'importe quoi. Voilà pourquoi je disais qu'on risque d'embraser encore totalement ces deux provinces. Je crois que nous devons faire des choses vraiment comme des responsables, et nous devons examiner toutes choses, nous devons éviter
Merci beaucoup Marie-Paul d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Alidor, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour Monsieur Julien, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi ainsi qu'à notre invité. La question, c'est une question vitale, c'est une question d'actualité. On doit lever ou on doit maintenir l'état de siège ou on doit le requalifier. Nous pensons que à ce stade, il y a lieu de requalifier l'état de siège. Nous sommes à moins de 4 mois des élections. Et que si aujourd'hui on levait l'état de siège, nous risquons d'assister à une situation sécuritaire qui pourra perturber même le calendrier électoral. À cause de ces glissements ou du report des élections.
Oui, Maître Alidor.
C'est une question vraiment capitale et nous devons beaucoup y penser. Et mettre beaucoup de temps de réflexion quand on parle de cet état de siège, monsieur Gier. Si aujourd'hui, d'aucuns pensent que l'état de siège a monté ses limites et n'a rien fait, nous ne partageons pas ce point de vue, étant donné que l'état de siège a permis de contenir l'ennemi dans une même région
ou dans un même espace et a empêché l'ennemi de progresser jusqu'à conquérir des grandes villes et pourquoi pas de grandes provinces. C'est comme ça que M. J.R., si on levait l'état de siège, vraiment la situation va dégénérer sur terrain.
Voilà.
Alors, le mieux à faire, c'est de réqualifier cet état de siège.
Alors, la grande question, quel doit être le contenu de cette réqualification?
Allô, M. J.R.
Alors, si vous qui proposez la réqualification, quel en doit être le contenu?
Le contenu de cette réqualification, M. J.R., c'est que l'État congolais doit d'abord changer de partenaire. Il y a des partenaires qui sont venus pour prêter main forte à l'État congolais, mais on s'est rendu compte que le partenaire jouait le jeu de l'ennemi. Mmh. Il faut bien penser par rapport au partenaire en face ou au partenaire associé pour combattre l'ennemi. Ça, c'est de un dans la restructuration. De deux, M. Gier, il faut aussi mettre les moyens.
Oui.
L'état de siège marche de pair avec les moyens. Les hommes qui sont engagés au front doivent bénéficier d'une prime de risque. Ils doivent aussi avoir des munitions, des effets.
Voilà, on a des petits soucis avec votre
ligne.
Voilà, merci beaucoup. Vous sortez entrecoupé. Je crois que par le souci ou encore le respect des auditeurs, on ne saura pas vous garder le plus longtemps. Merci beaucoup, Maître Lidor, d'avoir appelé des Kananga. Alors vous avez estimé qu'il va falloir requalifier l'état des sièges en tenant compte en termes de partenaires, également en termes de moyens à donner aux militaires. Alors Peter Mabudi, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour Peter.
Bonjour Monsieur Gilles, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les autres de la radio Capi.
Vous avez la parole, quel est votre avis?
Oui, merci Monsieur Gilles. Je pense que l'instauration de l'état des sièges décrété par le chef de l'État depuis le mois de mai a connu des avancées certes, mais l'objectif n'est pas atteint. L'objectif de cette mesure qui a été prise conformément à la Constitution, l'article 85, M. Gilles, visait l'instauration de l'autorité de l'État et le maintien de la paix. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des avancées telles que l'invité l'a expliqué. Est-ce que l'idéal est atteint? L'idéal n'est pas atteint. Et dans la même constitution, la mesure qui est exceptionnelle, l'état de siège, ne devrait pas rester éternel. Il y a de cela 2 ans. Quand on pense que cette mesure qui est constitutionnelle n'est pas atteint, l'objectif n'est pas atteint, il y a moyen qu'on puisse penser à une autre étape. La dernière étape, c'est aller où soit on proclame la guerre, où soit on lève l'état de siège, en créant d'autres mesures contraignantes pour mettre fin à cette situation, Monsieur Gier. On ne peut jamais résoudre un problème en créant un autre, non. Donc, on doit respecter la Constitution, mais tout en privilégiant encore d'autres dispositions constitutionnelles qui doivent nous permettre de ramener la paix dans cette partie du pays. Et je voudrais un peu rappeler, Monsieur Gier, la volonté qu'anime notre président de la République à travers certains extraits de ses propos. Au mois de septembre 2019, le président dit dans certains de ces... Donc le 22 septembre 2019, le président dit « J'ai trouvé une armée structurée ». Ce sont des propos. Et le 7 octobre 2019, quand le président a visité cette partie du pays, il a montré sa détermination jusqu'à accepter qu'il est prêt à mourir pour que la paix soit à l'Est. Et au mois de juin, pendant l'état de siège, le 17 juin, 2021. Le président dit, j'ai toujours dit ça. Tant que je n'aurai pas réglé le problème de sécurité, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Vous devez comprendre que la priorité des procès, c'est la sécurité. Donc, il est temps que le président, en tant qu'acteur principal de trouver des solutions au problème des Congolais, de penser à d'autres mesures. Mais c'est juste qu'on ne puisse plus aujourd'hui minimiser l'effort, la grandeur de la République pour dire nous ne sommes pas prêts d'aller en guerre, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas préparés. Non! Mais la population fait quoi? En dehors de ceux qui ont été recrutés dans l'armée, se prouve déjà la volonté de nous, peuple congolais, de défendre l'intégrité de notre pays, quel que soit le prix. Nous devons défendre l'intégrité. Mais on ne peut pas prendre des mesures avec légèreté. Et nous avions salué d'ailleurs l'entrée de Jean-Pierre même au gouvernement, quand il y a eu le gouvernement Samaré. Nous avions salué son entrée au gouvernement. Nous pensions trouver des solutions par rapport à cette situation de l'Est, M. Gilles.
Voilà. Alors, donc, si j'ai compris bien, Peter, pour vous, vous avez évoqué trois dates importantes pour vous. Au mois de septembre 2019, le chef de l'État a dit, a affirmé qu'il avait une armée très structurée, très bien structurée, à qui faisait d'abord confiance. Et le 7 octobre 2019, il a accepté à n'importe quel prix à mettre sa détermination jusqu'à à terminer la sécurité dans la partie est du pays. Et le 17 juin 2021, il a fait une promesse, tant qu'il n'aurait pas mis fin à l'insécurité dans cette partie, il a déclaré, vous l'avez dit, et je le reprends, qu'il a déclaré qu'il va, il n'aurait pas réussi son mandat. Merci beaucoup, Peter, d'avoir appelé 081 890 63 30 ou encore le 081 890 49 69.
L'information se retrouve aussi tous les jours sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on poursuit, parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen, avec vous, honorable Bintou Toumba, élu de Katanda et cadre d'élu des PS. Vous êtes avec nous, vous venez de suivre cette série des auditeurs. Quelle est votre réaction d'abord?
D'abord, nous tenons à remercier tous les intervenants, les trois, M. Marie-Paul qui parle de la levée progressive, et M. Alidor qui parle de la requalification de l'état de siège, et le contenu de cette réglementation, comme vous l'avez posé la question. Mais il faut ajouter que si la réglementation aura lieu, les constitutionnalistes vont se mettre ensemble pour trouver des bases constitutionnelles et juridiques qui vont permettre à ceux que qu'elles soient réqualifiées comme le souhaite M. Alidor. M. Peter Mabouidi, lui, parle des objectifs non atteints, mais il reconnaît quand même qu'il y a certaines avancées significatives sur le terrain, puisque dans les temps, il faut reconnaître que lorsqu'il y avait des rébellions, RCD, CNDP et tout ça, FDEL, il ne faisait qu'une semaine ou deux semaines pour atteindre Bukavu, Kisangani, et remonter jusqu'à Maniema pour venir à Kinshasa. Mais depuis l'arrivée du chef de l'État, son excellent Félix Antoine Tshisekedi, avec l'ensemble des mesures prises et les restrictions au niveau de l'armée, toutes ces aventures-là se sont arrêtées à quelques kilomètres. Nous ne voulons pas qu'un seul centimètre de notre pays reste entre les mains de l'ennemi. Donc ça produit quand même quelque chose et ça va produire davantage puisque la République est en train de se mettre debout. Bon, il a parlé des dates. Monsieur Peter Mabouidi a parlé des dates et des déclarations du chef de l'État. Bon, en résumé, c'était le chef de l'État voulait démontrer le décret de sa détermination à ramener la paix dans notre pays. Une paix que le pays recherche depuis près de 30 ans. Vous n'êtes pas sans ignorer que la MONUSCO est venue au Congo, c'était pour ramener la paix et une force internationale. Il y a eu l'ensemble, il y a eu la SADC, il y a eu la FAC, et tous les autres partenaires sont venus au Congo seulement pour aider la République à ramener la paix. Mais nous savons que notre armée doit prendre, être en train de monter en puissance pour reprendre sa place. Je vous assure, dans les jours à venir, ni la MONUSCO, ni les partenaires extérieurs finiront par partir et la République va continuer, l'armée congolaise va sécuriser seule la République.
Voilà. Alors, on va poursuivre comme l'ont dit certains auditeurs. Le 17 juin, le chef de l'État a dit tant qu'il n'aurait pas terminé la sécurité dans la partie Est, il aurait échoué dans son mandat. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus?
Non. C'est dire que le chef de l'État a échoué pour amener la paix, c'est faux. Moi, je vous ai dit que je viens de l'Est du pays. Posez la même question à la population des pays qui commence à dormir. Poser la même question à la population de Rwangoma, qui avait déjà fui, déserté les maisons, aujourd'hui sont retournés. Poser la même question à la population de Mbau, à la population d'Oicha, à la population des Triangles de la Mort de Kamango. Ils vous diront que même si le chef de l'État n'a pas ramené à 100% la paix, mais aujourd'hui, les tueries ont sensiblement diminué, et aujourd'hui, ils peuvent circuler, et aujourd'hui, ils peuvent dormir en dehors de quelques criminalités urbaines, comme ça se passe partout ailleurs. Mais les adeptes qui venaient tuer la population en pleine ville de Beni n'y viennent plus. Donc, ça a été, c'est parmi les meilleures décisions que le chef de l'État, les mesures prises
donc,
pour
donc amener la paix. On peut dire aujourd'hui, l'Embororo qui semait la terreur dans la partie est, notamment du côté des Siro, Wamba, ou encore dans le nord, là, est, et aussi les ADEF qui continuaient à sévir à partir de l'Ituri et tant d'autres coins, aujourd'hui, ils ont disparu, à Beni, comme vous l'avez dit.
Non, non. Je vous dis qu'à Beni, c'est à Beni dont je parle. Puisque l'insécurité grandissante, la manière dont on tuait les gens, à Beni et là où et l'insécurité ramenée par les Mororo, ce n'est pas la même chose. La cruauté, les assassinats, les kidnappings, les écorgements des gens, les aventrements de nos mamans et de nos filles et de nos familles, c'était dans le triangle de la mort de Beni. Et aujourd'hui, quand même, je vous ai dit que je viens de Beni, j'ai fait plus ou moins deux semaines à l'est du pays pour sillonner partout pour voir la situation. Je vous dis que la situation de Beni n'est pas comparable à celle de 2017
Merci
ou
beaucoup.
De 2018.
Alors,
quant à la situation de Mororo, puisque je connais au moins
Honorable Bintou, on va y revenir. L'étape peut-être d'accueillir Honorable Jean-Paul Lumbulumbu, qui est vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable du Nord Kivu. Alors, Honorable Lumbulumbu, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou affirmer que effectivement il y a la paix qui est revenue au niveau du Beni?
Avant de revenir sur cette question, je voudrais d'abord signaler que l'Assemblée provinciale du Nord Kivu est en deuil. L'un de ses membres, l'honorable Magezi, qui vient de participer à la table ronde sur l'état de siège à Kinshasa, un député qui a soutenu avec ferveur la levée de l'état de siège, vient de décéder à Butembo hier, donc
juste après la table ronde. Juste après la table ronde.
Oui, juste après la cérémonie. Je voudrais donc présenter mes condoléances à la famille de Logique, à sa famille politique, la RCD-KMN, et à l'ensemble de tous les membres de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu.
Voilà, nous profitons également pour présenter les mêmes condoléances, parce que bon, elle a été parmi les partenaires, des gens qui intervenaient à chaque fois que nous avions ce genre de sujet sur l'état des sièges dans nos émissions. Alors, honorable, vous êtes là sur place, est-ce que à Beni aujourd'hui il y a la paix, comme le déclarent certaines personnalités politiques? Où il y a des avancées.
Savez, pour les personnes qui ne vivent pas le Nord Kivu, qui viennent juste pour une semaine, deux semaines, hein, vous pouvez arriver pendant la période où il y a accalmie. Et vous pensez que pendant cette période-là, c'est la période, le mouvement qui va perdurer, il n'y a pas de tir. Pas plus tard qu'avant-hier, ici, les ADF ont pénétré dans le territoire de Beni, à Mandumbi là-bas. Nous avons vu comment la population s'est déplacée. Donc, parfois, quand j'entends les déclarations de certaines personnalités à partir de Kinshasa, à partir des autres provinces, je me pose la question de savoir, est-ce que nous sommes dans un même pays? Est-ce que nous partageons les sentiments de la population du Nord Kivu qui vit cette guerre-là, qui vit les atrocités? Il faut savoir que depuis un certain temps, les caméras ont été tournées plutôt vers Rutshuru. On ne communiquait plus sur les tueries à Beni à cause de la guerre du M23 à Rutshuru. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tueries dans le territoire de Beni. Et ça, nous avons fustigé le fait que quand le M23, le Rwanda qui s'est occupé de le M23, a occupé Bunagana, Kiwanja, Rutshuru, Masisi, une partie du territoire de Nyiragongo, la communication, même au niveau institutionnel, on ne parlait plus de ce qui se passe dans les territoires de Beni. Pourtant, chaque jour, on tuait dans les territoires de Beni. Donc, je ne partage pas le point de vue de l'honorable qui parle à partir du Katanga. Il est arrivé peut-être à Beni pendant des semaines, pendant une période où il y avait la calmie, mais les tueries continuent, sauf que la communication n'est plus celle qu'on faisait à l'avance, mais les tueries continuent. Dans les territoires de
Donc l'insécurité continue à battre son plein.
Oui, l'insécurité est toujours là. Il est peut-être vrai qu'il y a certaines entités, comme par exemple Mbao, où la population a quand même essayé de rentrer dans certaines petites entités, mais dans l'ensemble, les tueries continuent dans le territoire de Beni, dans le territoire de Rutshuru d'ailleurs, qui est occupé par l'armée rwandaise. Il y a des massacres qui se font chaque jour, il y a des tueries, il y a des viols. Il n'y a pas plus longtemps, il y a deux semaines, il y a même une fille qui a été abattue par les Rwandais du M23, tout simplement parce qu'elle a refusé de coucher avec l'un des officiers. C'est des faits qui sont là, qui ne sont pas rapportés à tous les niveaux, mais nous qui vivons là, au Nord Kivu, nous sommes au courant de tout ce qui se passe à tout moment.
Voilà. Alors, on va faire une comparaison, Lumbulumbu. Honorable Lumbulumbu, on ira du côté de l'Ituri, avec le professeur Jean-Paul, Sylvain Aguenaudou. Professeur Sylvain, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Alors, quelle est la situation sécuritaire aujourd'hui à Ituri? Est-ce qu'on peut, confirmer, sans avoir peur d'être contredit, qu'il y a des avancées très significatives lorsque, pendant l'état de siège?
Bien, monsieur Gère, je voudrais d'abord, si vous le permettez, recadrer tout petit peu votre question. Elle ne devait pas être posée de cette façon-là. Si vous me demandez de faire l'état des lieux de la situation sécuritaire, après
l'état des lieux... Oui, nous avions toujours fait l'état des lieux. Avant votre arrivée sur les ondes, honorable Bintou parlait des avancées. On a pu contenir les M23 à un seul endroit. Aujourd'hui, à Beni, il y a la calmie. Heureusement, on ne sait pas le dire ainsi non plus, parce que l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu nous a fait état de l'insécurité, pas plus tard qu'avant-hier. Et c'est pourquoi je vous pose la question. Est-ce qu'en Ituri, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a la calmie?
Vous savez que vous m'avez énervé avec votre question. Quand vous me posez la question si il y a des avancées significatives, c'est ce concept-là qui m'énerve. Et ça énerve aussi les Ituriens et même toute la population.
Alors, exprimez clairement. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec l'état des sièges. Parce que vous l'avez toujours réclamé pendant nos émissions, la levée.
Monsieur Gère, permettez que je m'exprime pour que les gens me comprennent. Je dis bien que vous m'avez énervé avec votre question en utilisant les concepts avancées significatives. Ça doit être enlevé. Le député Bitou, je ne sais pas s'il vit vraiment la situation. J'ai compris que sa province est très éloignée de nous, du Nord Kivu et de l'Ituri.
Non, il en vient, il a dit, il a fait une tournée là-bas.
Faire une tournée, monsieur Gère, c'est très différent de vivre une situation. J'allais souhaiter que vous m'avez posé une question, permettez que je réponde pour que les auditeurs me comprennent. La situation aujourd'hui de l'état de siège est devenue comme une marchandise. Et d'ailleurs, j'ai laissé moi vous le dire. Les gens qui nous observent, ils s'étonnent du fait qu'ils se battent autour du concept état de siège. L'état de siège est établi dans tous les états du monde pour des questions d'urgence, des problèmes de sécurité et consorts. Ça ne fait en réalité aucun débat. Lever l'état de siège ou le maintenir, ça ne pouvait pas faire aussi un débat. Le problème, c'est que, monsieur Gère, la question de l'Est, de la RDC, si je parle du Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri spécialement, et peut-être ailleurs aussi, doit être analysée dans une approche holistique. Je l'avais déjà dit dès le début de l'instauration de l'état de siège, que cette mesure exceptionnelle n'apportera aucune réponse au problème de l'Est. Lorsque j'étais sur la télé 50 en 2019, j'avais dit que pour l'Est du pays ou pour la partie orientale du pays, il faut un programme du type Marshall qui tienne en compte tous les problèmes que traverse cette population-là. La question qui se pose, pourquoi maintenir l'état de siège? Pourquoi la lever? Et moi, j'ai dit qu'on enlève l'état de siège ou qu'on le maintienne si on n'a pas une politique capable de pouvoir répondre aux problèmes profonds de l'Est du pays, je dis bien Nord Kivu et Sud Kivu, en maintenant comme en enlevant, rien n'arrivera. Je m'explique en deux mots seulement. Lorsque nous voyons les problèmes du M23, et c'est malheureux, hein, je voudrais bien avoir le numéro du député Bintou, je vais échanger avec lui après cette émission, on mettait un groupe rebelle stand-by, mais qu'il parte lire les décrets qui a lancé l'état de siège. Il faut éliminer les groupes armés. Pendant l'état de siège, le nombre de groupes armés s'est levé, je vais vous les balancer une box, puisque nous faisons le monitoring de tous les groupes armés qui sont nés après l'état de siège. Mmh. C'est encore beaucoup plus grand
qu'avant.
Lorsqu'on mettait un groupe rebelle dans un coin, on ne sait pas l'anéantir. On va parler de l'avancée significative. Je suis tout simplement étonné. On est républicain, on n'est pas républicain, on n'a pas besoin de propagande ici. Mmh. Nous avons besoin de réfléchir autour de la question de l'Est. Monsieur Gérard, je vais vous donner le deuxième élément. Mmh. Pourquoi parler aujourd'hui de l'état de siège? Dites-nous, depuis qu'on a instauré l'état de siège, est-ce que les civils ont cessé d'être tués? Mon frère qui a intervenu du Nord, qui vous vient de vous dire ce qui se passe chez eux. Vous voulez que je vous dise en Djougou, localité par localité, les nombres que nous sommes en train d'adresser par rapport aux exactions de la CODECO? Et on tue les gens chaque jour. Par curiosité, même les forces armées de la République sont attaquées. Et je dis tout simplement, monsieur Gère, puisque quand vous voulez que je puisse intervenir dans cette émission, j'avais seulement deux ou trois éléments à vous dire par rapport à l'état des sièges.
Oui, rapidement.
L'état des sièges doit être levé automatiquement.
Sans appel.
Sans appel. Et le chef de l'État, qui sera seul comptable de ses actions devant le peuple d'ici décembre, est responsable devant son acte. Personne ne lui donne un conseil. C'est à lui de voir si il va répondre devant les Ituriens, devant les Nord-Kivusiens, avec quel argument. Deuxième chose, tous les hauts responsables qui ont géré pendant l'état de siège doivent être mis en quarantaine pour qu'on puisse évaluer leur gouvernance. Monsieur Gère, je vais vous dire. Mon frère du Nord Kivu.
Mais c'est le travail qui a été fait lors de la table ronde, selon nos informations. On l'a pu évaluer.
Non. Moi, je dis très bien, monsieur Gère. Il faut que les chefs de l'État invitent les gouverneurs de l'Ituri, les gouverneurs militaires de l'Ituri, et les gouverneurs militaires du Nord Kivu, qu'ils puissent lui dire qu'est-ce qu'ils ont fait de deux ans de sa mission en Ituri au Nord Kivu. Troisième chose. Il faut qu'on relève de la fonction tous les hauts officiers qui ont pris des temps à l'est du pays et qu'on ramène des officiers qui viennent d'autres coins de la République et venir faire la guerre contre les groupes armés. Le processus de désarmement doit être un accompagnateur de la guerre ouverte contre les groupes armés. Nous les voyons en Ouganda. Nous sommes venus dans des frappes.
Voilà, comme un auditeur qui a pris l'option en disant il faut aller tout droit, déclarer la guerre, le fait que l'état de siège a complètement échoué et il faut passer à cette option pour elle qui semble être idéale. Il faut vraiment combattre tous les groupes armés. Merci beaucoup, professeur Sylvain Aguelodo, d'avoir appelé des Touri et d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. On revient à vous, honorable Bintou Toumba. Voilà, cadre de l'UDPS, élu de Katanda, là nous sommes au Kasaï oriental. Alors, honorable Bitu, réaction.
Merci beaucoup. Je tiens d'abord aussi à présenter mes condoléances les plus adressées à la famille de l'Istre disparu, l'élu du peuple, qui vient de nous quitter, comme l'a annoncé l'honorable Jean-Paul Lumbulumbu, que je salue aussi en passant. Bon, honorable Lumbulumbu pense que nous qui venons visiter quelques deux semaines, une semaine, un mois rentrons, nous ne vivons pas la situation de la même manière que ceux qui vivent sur place. Ce n'est pas totalement faux, ce n'est pas totalement vrai, puisque nous tous, nous voyons la situation, comment ça se passe. Nous avons nos familles, que ce soit biologique ou politique, qui vivent la même situation comme lui. Et donc la situation ne concerne pas tous ceux-là qui vivent à l'est du pays. Il y a l'ensemble des Congolais qui y vivent et qui voient la situation. D'ailleurs, je suis passé même par sa maison, on m'a montré que sa maison est là, du président Jean-Paul Lumbulumbu. Et donc, et je suis passé en paix et suis rentré en paix. Lui aussi se déplace aussi, mais pas qu'on parle de passer, que par le passé pour passer par là, c'est encore une situation difficile. Bon, il dit que moi, nous n'avons pas dit que les tueries ont totalement cessé à Beni. Nous avons dit qu'il y a eu sensiblement, les tueries ont sensiblement baissé. Et cela ne vient pas de moi, ça vient de la population elle-même de Beni. Monsieur Jean, l'honorable Jean-Paul Bulumbulumbu, s'il vit à Beni, il doit au moins aller aujourd'hui. Il a reconnu qu'il peut aller en Baou. Or, en 2018, 2017, lorsqu'on a tué Mamadou Ndala, en face de chez Maman, il y a une station d'essence. Quand vous allez vers Ouicha, là où il y a le palmier là-bas, il y avait plein de les gens venaient, ont tué les gens là-bas, Andoni, ont tué les gens, ma campagne, ont tué les gens jusqu'à Matongé, voire même au niveau de... Ce n'est pas la même situation que la population est en train de vivre aujourd'hui. Donc, ne pas reconnaître les efforts qui ont été déployés par les autres, ce n'est pas aussi bien. Mieux vaut reconnaître qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est fait, que le chef de l'État, en prenant les mesures de l'état de siège et la mutualisation avec l'armée ougandaise et PDF, il y a eu quand même certaines avancées, puisque la République de l'insécurité n'a pas commencé en 2019 à l'arrivée du chef de l'État. Cette situation, il l'a héritée depuis plus de 30 ans. Donc, il est en train de tout faire pour ramener la paix à l'est du pays. Quant à notre frère de l'Itouri, je connais quand même très bien l'Itouri. Je connais l'Itouri à commencer par Mambasa jusqu'à à Bounia, en passant par Djougou, mais dans le temps jusqu'au niveau de Haute-Ouélé. Donc, la situation de l'Itouri n'a pas commencé aussi aujourd'hui. J'étais en Itouri en 2002, j'étais en Itouri en 2007, j'étais en Itouri en 2017, j'étais en Itouri en 2020, et même voire 2021. Je vous dis, je connais aussi un peu la situation de l'Itouri. Avant l'arrivée de l'état de siège, les miliciens venaient jusque dans la ville de Bounia, tuer les gens dans la ville de Bounia. Donc, il ne peut pas nous dire aujourd'hui que les militaires continuent à venir tuer encore les gens dans la ville de Bounia. La route qui quitte Bounia vers Mahagi, les gens ne l'exploitaient pas, les gens avaient fait plus qu'on tuait les gens brûlés les véhicules chaque jour. La route qui quitte Bounia vers Djougou, à peu près de 80 km, vers Mungwalu. Donc, cette route-là, on tuait les gens chaque jour à Bambou. Ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout est revenu à la normale. Je me rappelle encore que c'est que moi, l'unique conseil que je fais à nos compatriotes de l'Itouri, je me rappelle qu'à l'époque, avant qu'on cède, qu'on puisse créer la province de l'Itouri, puisqu'il dépendait encore de la province la Grande Orientale, l'ancien président Joseph Kabila avait posé la question aux Ituriens que Mukuna Miwomba kila siku ni baleta province, siku nitabalombaka province, est-ce que mutaweza kujichunga mzuri? Donc, c'était cette question-là. Donc, pourquoi? Puisque à Ituri, les conflits intercommunautaires ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des conflits intercommunautaires qui datent depuis 2002. Donc, qui ont recommencé. Il y a eu l'opération Artemis, il y a eu les opérations des Français qui sont venus, il y a eu les Marocains, il y a la Monisco, il y a l'État dans les temps que vous réglez la question. Donc, la question de l'Itouri est devenue complexe avec l'arrivée des ADEF qui sont venus se mêler dans une situation dans la poudrière.
Et ça a compliqué. Donc, lors de la dernière mission assignée à Thomas Lubanga et aux autres, et ça n'a pas été facile, ils ont été même séquestrés
à l'Itouri. Oui, c'est pour dire que la situation de l'Itouri n'est pas comparable à celle de la situation de Beni. C'est une situation que je connais bien. Ce que moi je fais demander à nos compatriotes, puisque moi aussi étant Itourien, ayant habité à Itouri, je connais au moins mieux la situation. L'unique conseil que je peux donner, c'est que les gens se pardonnent. Les gens ne se sont pas encore pardonnés totalement.
Voilà, il faut encore une table ronde de réconciliation, parce que c'est dans le cadre de résolution des conflits. Hein. Il faut qu'on passe par les barazas, qu'on revienne, qu'on en parle, parce que ce qu'on a fait après 2003, après la guerre, après l'opération Artemis. Il faudrait aujourd'hui qu'on revienne encore sur ça, parce que finalement, les crises identitaires commencent un peu à s'imposer. Alors, merci beaucoup. On va revenir à vous, le temps d'écouter Jérémy. Et puis, Jérémy, vous êtes avec nous, Jérémy. Jérémy Mwamba, vous êtes avec nous?
Tout à fait.
Vous avez la parole, Jérémy.
Oui, bonjour, M. Gilles. Hein, bonjour également à vos invités. Nous saluons quand même cette convocation de la table ronde, parce qu'il fallait s'y attendre après qu'on ait passé à plusieurs rounds de prorogation de l'état des sièges qui n'a pas apporté grand-chose. Alors moi, je me dis, mais le chef de l'État était le seul premier citoyen à avoir... La réponse que quiconque, parce qu'il a eu, étant symbole de l'intégrité nationale, il a eu à lire les signes des temps, il a compris que vraiment, ça ne servait pas à rien de demander encore à ces deux chambres de pouvoir proroger ce qui a eu le temps de pouvoir convoquer. Moi, je me dis, il y a deux tableaux qui se présentent en face, notamment, vous savez, lorsque vous essayez de prendre des initiatives, vous mettez en place des stratagèmes, mais qui n'arrivent pas à aboutir, c'est que quelque part, le fondement n'a pas été bien posé. C'est ce que je suis en train de constater ici. Le chef de l'État, certes, il a de bonnes intentions, il a eu de bonnes intentions. Malheureusement, il a été trahi par ses pairs. C'est ce que je constate aujourd'hui.
Merci beaucoup,
Jérémy. Ça veut dire qu'il est en train de se vertuer. Vous regardez, et je suis en train même de craindre que ceux-là qui sont là, qui sont envoyés, qui sont venus à la rescousse de notre pays voilà, dans merci. Le cadre de...
Merci beaucoup, Jérémy. On va évoluer. Peut-être on va prendre un autre dernier auditeur. Mais l'État de revenir à vous, honorable Jean-Paul Lumbulumbu. Vous êtes avec nous. Quelle est votre réaction après avoir écouté les uns les autres?
Bon, c'est bien les débats citoyens de cogiter sur la question de l'état des pièges. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement vécu et vivant au quotidien des effets de l'état des pièges, il faut savoir qu'il y a des restrictions de liberté d'opinion, des restrictions de liberté de manifestation, des restrictions de liberté de réunion politique, et dans un contexte comme celui-ci, où nous nous préparons aux échéances électorales, cette raison vaut son présent mort seulement pour lever l'état du siège. Une autre raison, c'est parce que, écoutez, il faut saluer la volonté du chef de l'État. Si l'objectif pour le chef de l'État de mettre en place l'état de siège était de pouvoir résoudre le problème de l'insécurité, il faut saluer cette volonté-là. Il faut reconnaître que les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes de la population pour dire que l'objectif pour lequel l'état de siège avait été instauré, cet objectif n'a pas été atteint. Et nous pouvons reconnaître que pendant l'état de siège, il y a eu maximisation de recettes fiscales au niveau de la province Nord-Kivu. Mais écoutez, l'état de siège n'était pas une mesure financière et qui avait pour objectif d'accroître les recettes. L'état de siège avait plutôt un autre objectif. Et au regard de l'évaluation de cet objectif-là, je dois dire que pour la population du Nord-Kivu et moi qui suis sa bouche, en tout cas, il faut reconnaître que les résultats n'ont pas été à la hauteur. Une dernière raison pour laquelle il faut lever l'état de siège. Mais écoutez, l'état de siège n'est pas une panacée sécuritaire pour le Nord-Kivu. Les M23 avaient attaqué la ville de Goma en 2012-2013. Il avait été défait complètement. Il n'y avait pas état de siège. Oui. Donc autant on peut lever l'état de siège, renforcer l'armée sur le plan logistique et prendre des mesures stratégiques. Je crois que l'état de siège m'aura servi comment te donner des jurisprudences, mais sinon, il ne faudrait pas que l'on puisse continuer à faire croire à nos militaires qui ne peuvent être efficaces que pendant l'état de siège. Je pense que de manière normale, l'armée a la mission constitutionnelle de protéger l'intégrité du territoire, la protection des personnes et de leurs biens. Il ne faut pas qu'il y ait état de siège pour que l'armée puisse faire son travail.
Merci.
Il faut que l'armée soit en mesure de faire son travail, qu'il y ait état de siège ou non. Donc, pour chercher à dire, état de siège ou non, notre armée, si elle est renforcée, elle est appuyée, elle est soutenue par la population de chef de l'État, elle fera son travail comme elle l'a fait en
2013-2023.
Après,
merci beaucoup, honorable Jean-Paul Lumbulumbu. Nous rappelons que vous êtes le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu et notable de la même province. Merci beaucoup. À très bientôt. Alors, François Okundji, juste en une phrase, quel est votre avis? La levée, le maintien ou la réqualification?
Je salue à tous les auditeurs de la radio Capitaine, à travers les pays, à travers le monde. Vous savez que nous avons fait plaisir plaidoyer avec vous, Gilles Lungemo et
Oui, rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps, nous sommes déjà en conclusion. Vous optez pour le maintien, la levée ou la requalification?
J'opte pour la levée, c'est ça, c'est toujours mon combat avec...
Merci beaucoup, comme tous les autres qui vous ont précédé dans cette émission. Alors, on va conclure cette émission avec vous, honorable Bintou Toumba, élu de Katanda. Là, nous sommes au Kasaï Oriental. Vous avez la parole, honorable Bintou.
Merci beaucoup. Bon, pour terminer d'abord avec la situation de l'Ituri, je voudrais demander à mes compatriotes habitants l'Ituri et ressortissants de l'Ituri de se pardonner d'abord mutuellement et de manière sincère. Et puis, que l'amour domine sur la haine. Donc, dès que l'amour va dominer sur la haine et les discriminations, donc, à ce moment, la paix reviendra totalement en Ituri et c'est une province très riche, et une province qui va certainement beaucoup se développer et c'est une province qui doit être mieux gérée. Donc, je demande à tout le monde de se pardonner. C'est le pardon sincère et mutuel qui manque et qui est à la base de beaucoup de troubles au niveau de l'Ituri. Pour revenir à notre raisons avancées par l'honorable Lumbulumbu sur les restrictions de liberté pendant l'état de siège, oui, ce sont des mesures constitutionnelles. Peut-être pour ça, c'est une raison qu'il évoque pour qu'on lève l'état de siège, puisque nous allons aux élections. Et le retour des autorités civiles, oui. Ils veulent que on veut bien que les autorités civiles reviennent, mais ils doivent savoir aussi que les autorités civiles ont toujours existé pendant toute l'insécurité là depuis plus de 30 ans. Les deux provinces là ont toujours été gérées par les autorités civiles. Ce n'est pas une chose nouvelle. Quand ils parlent, ils reconnaissent quand même qu'il y a eu augmentation des recettes pendant l'état de siège. Or, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et s'il y a eu beaucoup de groupes armés à l'est du pays, si ces groupes-là continuent à subsister, c'est parce qu'ils sont en train d'exploiter les matières premières et qu'ils trouvent l'argent pour financer leur mouvement. Alors, si l'état de siège a augmenté les recettes, ça veut dire qu'il a diminué les revenus des groupes armés pour qu'ils ne puissent pas encore prospérer. C'est encore un avantage pour que l'état de siège, pour que les chefs de l'État puissent prendre réellement une décision qui va pour l'intérêt de la République et non pas pour satisfaire les retours des autorités civiles ou pour satisfaire les individus qui sont en chômage, par exemple, qui veulent retourner à leur poste ou bien pour satisfaire qui que ce soit. Donc, mais on doit prendre la décision pour l'intérêt suprême de la République, pour que la République soit sécurisée.
Merci
voilà,
beaucoup.
C'est l'essentiel qu'on peut dire en ce qui concerne l'état de siège. Bon, en définitive, nous pensons que l'état de siège a fait quand même quelque chose
de
significatif pendant les deux ans et le chef de l'État prendra une bonne décision.
Voilà, c'est le pouvoir discrétionnaire.
Soit toujours dans ses frontières héritées de l'indépendance, que 15 cm de notre pays soit volé par les voisins ou avec la complicité de certains Congolais. Qui sont en train de s'enrichir avec le sang des autres personnes.
Merci beaucoup.
Leurs compatriotes.
Merci beaucoup, honorable Bintou Toumba. Nous rappelons que vous êtes le député national élu de Katanda au Kasaï Oriental. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à toute l'équipe qui a concouru à la production et à la réalisation de cette émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Nous allons nous retrouver demain dans un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.